Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure de retrouver les enjeux internationaux avec vous. Xavier Martinet, bonjour.
Comme c'est beau, bonjour Jacques Mounier, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui au sommaire, le Venezuela en roue libre.
Et oui, alors que les premiers migrants de la caravane latino-américaine atteignent la frontière mexicaine, la crise au Venezuela sera au cœur du sommet ibéro-américain qui s'ouvre aujourd'hui au Guatemala. C'est ce que dit le journal Gaceta Tucumán et on en parle avec vous. François-Xavier Froland, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu. Vous êtes journaliste indépendant, ancien correspondant à Caracas pour France 24 et RFI et auteur d'un documentaire diffusé prochainement le 24 sur Public Sénat, documentaire sur les exilés politiques vénézuéliens. Alors, crise humanitaire et crise politique, ce sont 2 400 000 personnes réfugiées depuis 2015, les derniers chiffres de l'ONU, au moins 800 000 départs cette année 2018, réfugiés économiques et sanitaires et exilés politiques, véritable hémorragie, même 5 000 départs par jour, les derniers chiffres. Est-ce que vous pouvez le confirmer, l'estimer? Il y a des polémiques.
Moi, j'ai pas envie de jouer sur les chiffres, j'ai envie de parler de ce que j'ai vu à Cúcuta, la frontière colombienne. J'y suis allé deux fois cette année, en avril et en juillet, au moment fort d'ailleurs de cette crise. On en a beaucoup parlé cet été. Dès avril, j'étais surpris par le flux incessant de gens, de familles qui traversaient donc ce pont entre les deux pays, entre le Venezuela et la Colombie. Il y a une petite rivière, le pont Bolivar, en plus qui est un nom symbolique, un des héros de l'indépendance qui avait beaucoup récupérer Chavez, eh bien ce pont rempli de Vénézuéliens pauvres, pour les trois quarts, des gens d'anciens chavistes, puisque j'ai beaucoup discuté avec eux. Certains portaient encore les t-shirts avec la figure de Chavez, les t-shirts rouges. Donc vraiment des gens qui y ont cru et qui fuient ce pays parce que, on le sait depuis plusieurs années, une crise économique, une crise politique, de la répression. Il y a eu des manifestations sévèrement réprimée et puis vraiment des difficultés pour se nourrir tout simplement et se soigner.
Et justement, exilés politiques ou réfugiés parfois mêlés, il y a 6 personnes que vous avez interviewées pour ce documentaire. 4 sont des figures politiques qu'on peut dire majeures, on va en reparler, mais il y a aussi 2 jeunes qui se sont trouvés mêlés aux manifestations en quelque sorte, dont une jeune artiste peintre qui est aussi, on pourrait le dire comme ça, un cas sanitaire en fait.
Oui, elle a été malade de la tuberculose, pas de chance pour elle, au tout début des manifestations de avril-juin 2017, qui ont été les manifestations les plus violentes organisées par les jeunes étudiants vénézuéliens contre Maduro. Elles ont été sévèrement réprimées. Il y a eu environ plus d'une centaine de morts et des milliers de jeunes opposants arrêtés, emprisonnés. Il y en a encore 300 et quelques dans les geôles de Maduro. Donc cette jeune fille, eh bien, quelque part, représentait un petit peu la dégradation sanitaire du pays par cette maladie. Elle a eu des difficultés pour se soigner, puisqu'il n'y a plus de médicaments qui arrivent au Venezuela. Et sa manière à elle de résister, ça a été, puisque c'est une artiste, ça a été de peindre, de rendre hommage aux martyrs, aux jeunes étudiants tués lors de ces manifestations réprimées.
Oui, je crois que 80% des médicaments manquent au Venezuela et des moyens médicaux, c'était les derniers chiffres.
On le voit d'ailleurs dans le film, à un moment, il y a les casques blancs argentins, puisque il y a une solidarité régionale et le président Macri était l'un des premiers à envoyer une aide humanitaire. Et ces casques blancs argentins, qui pour les trois quarts, d'ailleurs j'ai discuté avec eux, sont des gens plutôt de gauche, sont pas des gens d'extrême droite, comme l'a dit Maduro. Il les traitait, il les a vraiment traités de tous les noms, ces pauvres casques blancs argentins, en disant qu'ils étaient des fascistes, qu'ils étaient à la solde de la CIA, etc. Non, pas du tout. Moi j'ai discuté avec eux, les trois quarts avaient même voté à une époque pour Kirchner, l'ancien président argentin, ou la présidente argentine, qui était très proche à une époque de Chavez. Donc on voit bien qu'on est dans de la désinformation de la part des autorités vénézuéliennes, justement pour un petit peu enfumer et éviter de se responsabiliser sur cette crise.
Et à contrario, il y a certaines informations en creux qui nous parviennent aussi à travers votre documentaire sur la manière dont sont traités les opposants politiques. C'est vrai qu'on avait peu d'aperçus, notamment Sergio Contreras, qui était un des associés, enfin l'associé conseiller de Leopoldo López, donc un des fameux opposants. Qu'est-ce qu'on peut savoir de la répression politique?
Elle est très violente. Alors, on est aujourd'hui face à une néo-dictature. Donc, évidemment, c'est un régime qui essaye de montrer une image toujours louable. Il essaye de rester un petit peu dans le supportable, mais la torture dont a été victime ce jeune Sergio Contreras, hein, qui est aussi un journaliste, faut pas l'oublier, parce que la presse a été extrêmement reprise en main au Venezuela. Aujourd'hui, vous n'avez plus de chaîne de télé d'opposition, contrairement à ce qu'on entend parfois, surtout de la part de certains messagers ici qui transforment un peu la réalité du Venezuela.
Et lui-même arrêté en activité, d'ailleurs, il couvrait une manifestation.
Voilà, il couvrait une manifestation, on le voit d'ailleurs dans le film, extrêmement extrêmement frappé, violenté, etc. Il s'est retrouvé pendant un an dans une des pires prisons, hein, c'est une prison militaire, donc déjà, il n'aurait pas dû être dans cette prison-là. Il a été jugé par un tribunal militaire, ce qui, normalement, n'aurait pas dû être le cas. Il s'est retrouvé dans la même prison que Leopoldo López, qui est une des grandes figures majeures de l'opposition, et il a subi une torture psychologique, plus que tout. Ce n'est pas la torture comme en Syrie, on n'est pas dans un état de guerre, mais on est dans un pays qui torture psychologiquement ses opposants. Alors, il nous raconte dans le film la manière dont ça a été réalisé. C'est absolument effroyable. On n'est pas loin, parfois, d'ailleurs, de certaines méthodes fascistes qu'on a connues dans les années 30.
Oui, avec un certain nombre de violences physiques, effectivement. Alors, si on parle du tableau politique, vous avez cité Leopoldo López, donc, qui n'apparaît pas dans ce documentaire, mais qu'on
entend maintenant dans la prison de Ramo Verde, la fameuse prison militaire.
Effectivement. Et il y a, par contre, ces trois figures majeures que sont Luisa Ortega Diaz, l'ancienne procureure, Julio Borges, l'ancien président du Parlement, et Antonio Ledesma, ancien gouverneur et maire de Caracas. On va écouter tout de suite Luisa Ortega Diaz.
Yo lamento que ciudadanos del mundo sean de izquierda o de derecha, porque esto no es un problema de ideología, esto es un problema de humanidad, esto es un problema de ver la situación que está viviendo el venezolano. Eso no se puede tapar el sol con un dedo. Todos en el mundo somos testigos de las manifestaciones de personas que salen de Venezuela. No es que sale uno. El mundo está colapsado con los venezolanos.
Voilà, le monde entier sort du Venezuela. Je résume en deux mots. En fait, elle est une ancienne chaviste et elle regrette que effectivement il y ait un certain nombre de personnes qui ne voient pas la situation.
Ils veulent pas voir la situation
sanitaire.
C'est une question d'humanité, elle dit.
Alors, ancienne chaviste, passée à l'opposition aujourd'hui, Luisa Ortega Diaz, une vraie figure un peu évacuée sur le tard, on pourrait dire, du régime.
Ouais, ou qui s'est enfuie, parce qu'elle s'est enfuie aussi de manière rocambolesque, hein, après qu'elle ait été démise de ses fonctions par la nouvelle assemblée constituante qui a été créée par Maduro pour boycotter l'Assemblée nationale qui lui était hostile.
Début 2017.
Voilà, 2017. L'Assemblée nationale était aux mains de l'opposition depuis un peu plus d'un an. Aujourd'hui, elle ne sert plus à rien, cette Assemblée nationale, puisqu'elle a été boycottée. Et Luisa Ortega Diaz est vraiment quelqu'un d'assez étonnant, parce qu'en fait, d'abord, c'est une femme face à un régime qui s'est militarisé, qui est devenu un régime macho. Maduro roule des mécaniques en permanence. Il y a un côté quand même extrêmement caudillo dans sa manière d'être au pouvoir. Et cette femme a réellement vécu, on l'appelle la persécutée, je l'appelle la persécutée dans le film, une persécution, mais plus que psychologique. Elle a déménagé une quinzaine de fois tellement on la pourchassait. Elle se faisait régulièrement elle avait des pressions régulières, des menaces de mort en permanence. Les gens qui l'entouraient, elle en parle dans le film, ont subi pour certains des traitements, des mauvais traitements physiques, etc. Donc elle a vécu un cauchemar à partir du moment, et on est en 2017, à partir du moment où elle a critiqué justement la violation des droits humains par le régime de Maduro, et aussi des cas de corruption. Alors là, ça a été le début de la fin. On a commencé vraiment à lui mener une guerre, et aujourd'hui elle vit à Bogota. Je l'ai rencontrée dans son petit bureau, elle ne sort très peu de chez elle. Elle a très très peur, en fait, des sicarios, hein, des tueurs à gages venus du Vénézuélien. Un de ses collègues a été d'ailleurs lui-même visité par des tueurs à gages dans son appartement à Bogota. Elle vit vraiment dans la peur et elle lutte depuis Bogota contre un régime qu'elle considère désormais totalement fascisant.
Ce qui ne l'empêche pas de poser devant le drapeau vénézuélien, devant le drapeau également de la justice vénézuélienne. Juste une dernière question, puisque c'était un peu l'enjeu. Ces trois figures-là, Luisa Ortega Diaz, Julio Borges, Borges et Leopoldo López, qui sont tous les trois éloignés les uns des autres. C'était les parmi certains d'entre eux, les figures de la MUD, le front principal d'opposition. Ouais, ouais. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de front de l'exil?
Alors justement, si l'opposition s'organise, c'est depuis l'exil, puisqu'elle n'existe quasiment plus au Venezuela. Il faut savoir que les principales figures de l'opposition sont assignées à résidence. Capriles Radonski, qui avait fait un très bon score contre Maduro lors d'élections, qui avait été remise en question en 2013, déjà par l'opposition, il a vu 49%. Aujourd'hui, il ne peut plus rien faire. Dès qu'il bouge le petit doigt, il peut se retrouver en prison. Leopoldo López, qui en est sorti, qui se retrouve aujourd'hui assigné à résidence, la même chose. María Corina Machado, qui est une figure incroyable, une femme très courageuse, libérale, certes, donc très critiquée parce qu'elle est, on l'a dit, proche des États-Unis. Cette femme, elle s'est fait tabasser deux ou trois fois par les sbires de Maduro. Donc voilà, aujourd'hui, l'opposition, ce sont les gens que vous avez cités, ce sont des gens qui vivent à Bogota, à Madrid, et qui tentent de faire pression sur les gouvernements du monde pour faire changer les choses au Venezuela.
Et on les retrouvera donc dans votre documentaire sur ces exilés politiques du Venezuela, diffusé le 24 novembre sur la chaîne Public Sénat. Merci beaucoup François-Xavier Frelan pour
aujourd'hui. Merci à vous.
Merci.